Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. T left.
Mercedes. Wide chip. Ricky. Bieber left. 75. Katie. Omaha.
Quick going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Et bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 634 de Touchdown Actu, la preview de la semaine 3. On est déjà en semaine 3, ça passe tellement vite, on l'attend pendant des mois et ça arrive beaucoup trop vite. Et pour m'accompagner, Jean-Michel Boujard. Bonjour à toi Jean-Michel.
Hey, bonjour Victor, bonjour tout le monde, ça y est, on y est, le début de la saison, c'est super, c'est génial.
C'est perturbant de t'avoir sur un podcast qui n'est pas un podcast draft, hein, puisqu'on a été habitués, toi et moi, à en faire beaucoup ensemble.
Ah bon ?
Aujourd'hui, on va parler NFL. On va parler de la semaine 3.
Ah ouais, non, moi je croyais qu'on allait parler de, je sais pas, Brock Bowers et Marvin Harrison, c'est pas aujourd'hui ?
Non, non, Brock Bowers, c'est demain, tu t'es...
Ah, voilà, d'accord.
Donc on vous rappelle avant de commencer que cette émission est sponsorisée par Sixplay. Vivez la saison régulière sur Sixplay. Tous les dimanches à 19h, une affiche NFL en direct et gratuitement, et commentée par Touchdown Actu. Ce dimanche, ce sont les New York Jets et New England Patriots dans un affrontement d'AFC Est qui sera commenté par Grégory et par Lucas. Donc direction l'appli Sixplay ou sixplay.fr. Alors Jean-Michel, on a un gros programme aujourd'hui. On va parler des Cowboys, on va parler d'un match de la peur, on va faire évidemment nos pronostics et on va faire nos cotes Unibet. Donc avant de commencer tout ça, un petit jingle et on est parti.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Alors Jean-Michel, on parle évidemment dans la rédaction pendant les matchs, dimanche, etc. Et tu es venu et tu m'as dit, alors j'ai plus les mots exacts, mais en gros, qui peut battre ces Cowboys-là en NFC ? Et du coup, ça m'a donné une idée de débat. Je me suis dit, bah allons-y, partons là-dessus. Est-ce que les Cowboys sont vraiment les favoris de la conférence ? Je mets un peu dans le contexte, hein, sur les deux premiers matchs, ils ont marqué 70 points, ils en ont encaissé 10, donc c'était face aux deux équipes de New York. Deuxième meilleure défense en yards par play, premier en sac, cinquième en pression, cinquième en conversion des troisièmes tentatives, autant dire la meilleure défense actuelle, et une attaque qui n'a pas encore été testée réellement, mais qui a donné satisfaction elle aussi. Donc Jean-Michel, allons tout de suite dans le détail. Est-ce qu'on commence par cette défense ? Est-ce qu'on a là enfin, parce qu'on a eu des années où la défense de Dallas était bonne, mais sans non plus être ultra dominante, parfois irrégulière. Est-ce qu'on a enfin la défense qui peut faire de Dallas un véritable épouvantail en NFC ?
Ah ben oui, moi c'est ce que je pense en fait. Ça part déjà de la défense. Parce qu'en plus, ils ont vraiment tous les ingrédients d'une très bonne défense. C'est-à-dire qu'il y a du pass rush. Hein, j'apprends rien à personne. Micah Parsons, il est sensationnel. Pour l'instant, il est en course pour être le défenseur de l'année. Doucement, il n'y a eu que deux matchs, bien entendu, mais déjà entre ce qu'on a vu l'année dernière et ce qu'on voit de ce début de saison, il est incroyable. Il y a du pass rush et ça peut être en plus optimisé par les arrières défensifs parce qu'il y a quand même trois joueurs, on parle de Stephon Gilmore, de Trevon Diggs et de Daron Bland, trois joueurs qui sont ce qu'on comme on l'appelle des playmakers, des arrières défensifs qui ont de très bonnes mains, qui peuvent faire des interceptions, qui peuvent faire donc des plays décisifs, qui changent une défense. Donc tu as du pass rush devant, surtout que personne, il n'est pas seul non plus, il y a aussi du Odi Gizoua, il y a aussi du Marcus Lawrence, il y a une belle rotation, et en plus ces arrières défensifs, voilà, pour optimiser tout ça, parce qu'on le sait, la pression et la couverture, ça va ensemble. Et au milieu des deux, ben, il y a quand même des bons joueurs aussi, vous avez par exemple Linton Van Der Esch, qui est un très bon linebacker, donc cette défense est vraiment très complète, et on n'a pas encore mentionné le coordinateur offensif Dan Quinn, qui quand même sait ce qu'il fait, donc cette défense, ben voilà, comme on dit, normalement c'est l'attaque qui t'amène au Super Bowl, mais c'est la défense qui te le fait gagner, et Dallas, ils sont armés pour ça.
Oui, coordinateur défensif, évidemment, parce que l'attaque, Quinn, c'est pas son truc. Mais en tout cas, je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'insiste sur le fait que, pour moi, la clé, vraiment, c'est que l'année dernière, il y avait quand même ce trou au milieu de la ligne et des linebackers qui ont sous-performé. Et je trouve vraiment que la différence cette année, c'est en effet Odi Gizoua, qui en plus de venir de la meilleure université des États-Unis, évidemment, est vraiment arrivé à maturité. Et Leighton Van Der Esch, pour l'instant, alors ce n'est que deux matchs, mais c'est vrai qu'il semble revenir à un très bon niveau en espérant que son corps le laisse tranquille, parce qu'on sait malheureusement que ça fait partie des problèmes avec lui. Mais donc, on a cette défense. Globalement, on l'a dit, ça peut être l'arme principale. Maintenant, l'attaque. Est-ce qu'on se dit... Il y a Dak Prescott, il y a Pollard, il y a CeeDee Lamb. Donc, cette attaque, elle va faire le boulot. Ou est-ce qu'il y a certains points qui t'inquiètent? Moi, j'ai deux points qui... Je suis allé chercher pour être un peu tatillon, mais j'ai deux points où je me suis dit, tiens, est-ce que ça ne peut pas les faire perdre? J'ai la ligne offensive et j'ai l'absence de pass catcher numéro 2 derrière CeeDee Lamb. Est-ce qu'il y a un de ces deux points qui, toi, te ferait douter? Ou est-ce que tu penses que cette attaque, elle est au même niveau que ta défense et que c'est juste un rouleau compresseur?
Ouais, moi je suis pas très inquiet pour l'attaque parce que je te rejoins sur un peu l'absence du receveur numéro 2 avec la blessure de Brandin Cooks. Mais on l'a vu encore au dernier match, par exemple, on commence à voir le jeune Jalen Tolbert qu'on avait bien vu à l'université. L'année dernière, il n'a pas beaucoup joué, là il commence à se montrer. Donc je pense qu'ils peuvent trouver, de toute façon, un receveur de complément, Michael Gallup, qui va augmenter son niveau également. Et puis surtout, Dallas, c'est une équipe qui court beaucoup, c'est une équipe qui court plus que ce qu'elle ne lance. Et quand tu as un coureur comme Tony Pollard, ça fait l'affaire. De toute façon, pour l'instant, après deux matchs à NFL, il n'y a que 5 équipes qui courent plus qu'elle ne lance, et Dallas en fait partie. Et donc déjà quand t'as ce jeu au sol, ça t'apporte une attaque, ça te permet d'avancer les chaînes. En plus, Dak Prescott, ok, c'est peut-être pas le quarterback élite dans le top 5 NFL, mais pour l'instant moi je trouve qu'il joue très bien, il prend de bonnes décisions, il y a qu'à voir son taux de complétion, il est plutôt très bon, il commet très peu d'erreurs. Donc quand il y a un quarterback, on va dire, allez, propre. Et en plus, c'est quand même un bon joueur qui peut apporter beaucoup de choses. Quand il y a ce jeu au sol avec Tony Pollard, sans mentionner qu'en plus il est une double menace, quelque part ça peut compenser un petit peu cette absence d'un numéro 2. Surtout que CeeDee Lamb, moi je trouve qu'il monte vraiment en puissance, ce joueur. Alors c'est pas une découverte, c'est pas d'aujourd'hui qu'il commence à faire de bonnes choses, mais je trouve qu'il est de plus en plus régulier. Donc moi je suis pas très inquiet pour l'attaque.
Ouais, alors... Pour le coup, moi, c'est vraiment... Alors, je fais un peu du football fiction, mais partant du principe que les trois meilleures équipes de NFC sont les Niners, les Eagles et Cowboys, dans l'ordre que vous voulez, moi, ce qui me fait un peu peur, malgré tout, c'est qu'aujourd'hui, le deuxième receveur, il a moins de 50 yards et c'est Tony Pollard. Michael Gallup, ça fait quand même quelques années qu'il n'est plus vraiment au niveau qu'on a vu. Brandin Cooks, on va voir dans quel état il est. Et puis, pareil, Tony Pollard, s'il continue à être utilisé autant, parce que là, il a été utilisé 50 fois en deux matchs, au bout de deux semaines de NFL, il y a déjà 30% des running back titulaires qui sont blessés, tu vois. J'ai un peu peur s'il continue à jouer autant qu'il finisse sa saison avec quelques bobos. Mais bon, encore une fois, là, je chipote dans le sens où j'essaye de trouver les défauts d'une top, top équipe de la conférence. Mais demain, tu as une blessure de Pollard. Est-ce que tout le système ne s'effondre pas? Bon, après, bien sûr, hein, on peut le dire de beaucoup d'équipes, mais c'est rare que ça soit pas le quarterback et que ça soit le running back quasiment aussi important que le quarterback dans ce système. Et la dernière petite chose, moi, c'est la ligne malgré tout. J'ai trouvé que Steed était moyen, que Bayadash était moyen. Tyler Smith est toujours pas revenu. Alors, il n'y a pas péril dans la demeure, mais il va falloir surveiller ce groupe, essayer de récupérer tout le monde et de retrouver un peu le niveau habituel des lignes offensives de Dallas.
Oui, mais il y a les Titans aussi. Moi, je trouve qu'ils commencent à bien se montrer. Je trouve que Jack Ferguson a montré une bonne progression. Alors, il est encore sous-utilisé pour l'instant, mais le peu qu'on le voit, ben, il fait des bonnes choses.
Beaucoup de drops en semaine, quand même.
Oui, mais il apporte, moi je trouve, il a déjà marqué. C'est comme le rookie, par exemple, Schoonmaker. Alors ok, il a eu qu'une seule réception pour l'instant en NFL, mais cette réception, ça a donné un touchdown. Donc voilà, deux joueurs qui petit à petit vont être intégrés de plus en plus à cette attaque. Et puis on a même vu le rookie, le petit Deuce Vaughn, le petit très électrique. Donc je pense que petit à petit, alors il va pas prendre la place de Tony Pollard, c'est pas ce que je dis, mais il peut arriver en complément également. Moi je trouve qu'en plus, voilà, il y a de la profondeur dans cette attaque.
Non, mais bien sûr, ils peuvent jouer en personnel 12 de façon de plus en plus courante pour modifier un peu les choses. C'est tout à fait envisageable. Donc voilà, on a fait un peu le tour. Donc défense, on est dithyrambique. Attaque, on est quand même plutôt positif. Jean-Michel, je suis désolé, je te pose la question. Là, demain, est-ce que... Alors, on va faire... Donc, Cowboys Eagles. Demain, en finale de conférence, il y a Cowboys Eagles. Qui gagne?
Ah oui, d'accord, bonne question. De suite, on met les pieds dans le plat. Effectivement, vas-y. Les Eagles, ils sont très très bons. Mais ben, écoute, moi, je miserai sur les Cowboys. Je miserai sur les Cowboys parce que je trouve
alors,
que voilà.
Ouais. Non, mais très bien, tu mises
ouais.
sur les Cowboys.
Ouais.
Deuxième alternative, Cowboys Niners.
Ah ben, je mise sur les Cowboys également, écoute. Oui, oui, oui.
Ah, donc voilà, donc pour toi, aujourd'hui, les Cowboys sont le grand favori de la NFC.
Ah oui.
Et évidemment,
oui.
J'espère que tu vas être jinxé, hein, évidemment. Traite de plaisanterie, je pense en effet que on peut ou pas les considérer comme favoris. Par contre, c'est assez incontestable que sur les deux premières semaines, c'est l'équipe la plus impressionnante. C'est celle qui a été le plus en forme. Après, être en forme en septembre ne veut pas dire que tu seras en forme en janvier, mais c'est quand même mieux que d'être un peu en retard à l'allumage, comme peuvent être, par exemple, les Eagles qui sont des rivaux directs.
Tu vois, les Eagles, ils sont vraiment très très talentueux, mais pour l'instant, de ce que montrent les Cowboys, moi je trouve qu'on peut parler de toutes les tactiques du monde, mais finalement, à la fin, les matchs se jouent souvent sur les ballons que tu as perdus, les ballons que tu as gagnés, et pour l'instant, il n'y a pas meilleur que les Cowboys. L'attaque, elle ne perd pas de ballons, ils sont très propres, et la défense, ils en récupèrent énormément des ballons. Et souvent, ça se joue là-dessus, les matchs.
Non, mais tout à fait, tout à fait. C'est un point fondamental, et donc, on va conclure cette partie en disant que les Cowboys sont les favoris de la NFC pour toute complainte. Évidemment, vous irez voir Jean-Michel. Et on enchaîne tout de suite avec l'affiche de la semaine. Jean-Michel, l'affiche de la semaine, la France a peur. Enfin, plus précisément, le Minnesota et la Californie ont peur, puisque s'affrontent ce week-end les Minnesota Vikings. 0 victoire et 2 défaites, et les Los Angeles Chargers, 0 victoire et 2 défaites. On est sur deux équipes que beaucoup d'analystes voyaient en play-off en début de saison. 0-2, ce n'est pas rédhibitoire, mais ça reste un très mauvais départ, surtout quand on perd des matchs contre, par exemple, les Titans ou les Buccaneers, pour prendre l'exemple des deux côtés. Jean-Michel, on va commencer cette analyse de match et j'ai envie de te dire tout de suite, est-ce qu'on n'est pas, pour les deux équipes, hein, avec la faiblesse en défense et la force en attaque et finalement c'est festival offensif et c'est à la quête des deux meilleures attaques sera sur le terrain dimanche. Est-ce que je caricature ou est-ce qu'il y a du vrai ?
Non, oui, bien sûr qu'il y a du vrai, parce que pour l'instant, c'est ce qui fonctionne le mieux dans ces deux équipes. C'est tout de même l'attaque, il y a beaucoup de faiblesses des deux côtés en défense. En plus, ce qui est intéressant, c'est que je trouve ces deux attaques très différentes. Je trouve que les Vikings, c'est une attaque plutôt, allez, on va dire traditionnelle, c'est assez propre, etc. Alors que de l'autre côté, c'est un peu plus flamboyant. Mais par contre, moi, je trouve, tu vois, ben déjà, je trouve que les Chargers étaient vus beaucoup plus haut que ce que moi, je pensais en début de saison, notamment lors de notre Power Ranking. Mais voilà, les Chargers, ils ont beau être flamboyants, moi je trouve que ça manque beaucoup de réalisme. C'est-à-dire que par exemple, sur les deux premiers matchs, Justin Herbert a lancé 15 passes en red zone, c'est-à-dire dans les 20 dernières yards adverses. Et sur ces 15 passes, ça a donné que 3 touchdowns. Donc ok, c'est très bien d'arriver dans les 20 dernières yards adverses, mais ce qu'il faut, c'est concrétiser. Et ça, c'est vraiment le problème de l'attaque des Chargers. Ils ont du mal à concrétiser, à marquer 6 points. C'est bien de marquer 3 points, tu as avancé sur le terrain, tu as fait tourner l'horloge, mais il faut marquer. Alors que de l'autre côté, je trouve que les Vikings, c'est peut-être moins flamboyant, mais ça me paraît quand même beaucoup plus réaliste avec voilà, le rookie Jordan Addison qui se montre, avec Jefferson, avec Hawkinson. D'ailleurs, moi je trouve ça très bien que pour une équipe qui s'appelle les Vikings, il n'y a que des skill players avec un nom qui finit en son. Voilà, ça fait très viking, je trouve.
Oui, et c'est très roleplay. Ouais.
Voilà, tu vois. Mmh. Et du coup, mais moi je trouve que c'est une attaque un peu plus réaliste que celle des Chargers.
Mais alors, tu vois, moi, en fait, tu l'as dit, le problème des Chargers, c'est le réalisme. C'est transformer un passage en zone rouge en 7 points. Moi, ce qui me dérange sur les Vikings, c'est qu'ils peuvent faire tous les yards du monde. S'ils continuent à perdre autant de ballons qu'ils l'ont fait sur les deux premiers matchs, ils ne gagneront jamais. Parce que là, ça devient vraiment caricatural. C'est contre les Eagles. Je veux dire, Kirk Cousins, à un moment, il fait 400 yards, il fait 4 touchdowns, il ne peut pas faire beaucoup plus. Mais tu perds 4 ballons et ça te tue le match. Face aux Buccaneers, ils perdent 3 ballons de mémoire, ça te tue le match aussi. Donc c'est vraiment, tu l'as dit, ces deux attaques, moi je trouve que c'est des forces, oui, mais. Et alors du coup, c'est mais réalisme chez les Chargers, mais ne pas perdre de balles chez les Vikings. Au niveau, d'ailleurs, ça se ressent hein, au niveau des défenses, parce que alors les Chargers... C'est quatrième attaque, 32e défense, donc tu ne peux pas faire plus vraiment catastrophique. Après, ils ont affronté les Dolphins. Hein. Faut avouer que sur deux matchs, il faut voir aussi qui tu affrontes. Mais ils ont même fait vivre les Titans, donc c'est dire. Et Vikings, c'est 8e attaque. Paradoxalement, la défense est plutôt dans le milieu de groupe aujourd'hui, dans toutes les statistiques et statistiques avancées. Mais encore une fois, en fait, ils ont eu beaucoup de pertes de balles et ils n'en ont pas provoqué de l'autre côté. Et ça fait malheureusement toute la différence. On a parlé du coup de ces attaques. Au niveau des défenses, au niveau des Vikings, on n'a pas beaucoup de talent, mais on a un Brian Flores qui va essayer de faire ce qu'il peut, en étant très agressif, en blitzant. On l'a vu notamment contre les Eagles. Au niveau des Chargers, moi j'aimerais ton analyse, parce que le talent individuel... Il est là. Qu'est-ce qui fait que le système ne marche pas ? C'est juste un problème de coaching ?
On dirait bien quand même, parce que bon, quand même, Brandon Staley, il était réputé pour ça, notamment quand il était aux Rams, voilà. Il avait ce système qu'on appelle le tight end front, voilà, avec deux joueurs plein centre et puis des linebackers qui courent dans tous les sens, et puis ça marche pas depuis qu'il est aux Chargers. Alors que, comme tu le dis, il y a quand même des joueurs quand tu fais la liste. Alors, ok, je veux bien que Khalil Mack il soit un petit peu en fin de carrière, je veux bien que Joey Bosa il soit irrégulier, mais quand tu vois la somme des joueurs qu'ils ont en défense, je comprends pas que ça clique pas mieux que ça. Je veux dire, un Derwin James qui vole sur le terrain, qui peut aller de partout, et pourtant ça fonctionne pas vraiment. Donc ouais, moi mon hypothèse, ça serait qu'au niveau du coaching, il y a un problème de système, parce qu'ils arrivent pas à s'adapter, notamment aux adversaires.
Oui, il y a un problème de joueur pour Jesse Jackson, je pense, qui depuis son recrutement des Patriots est juste cataclysmique entre blessures et mauvaises performances. Bon, ça c'est comme ça, on verra bien la suite, mais clairement là il y a un problème de coaching. Que ce soit d'ailleurs en attaque, dans la gestion des temps forts, que ce soit en défense, enfin, cette équipe des Chargers, aujourd'hui, alors ce n'est que deux matchs, ce n'est pas définitif, etc. Mais sur les deux premières semaines, elle a été mal coachée. Je pense que bien coachée, cette équipe, elle est au moins un partout, voire à 2-0.
Oui, et je pense qu'on peut dire la même chose des Vikings. Et évidemment, on parle avec tout le respect, voilà, pour Brandon Staley ou pour Brian Flores, mais moi je trouve que la défense des Vikings, de toute façon, on le sait, Brian Flores, il défend surtout la passe, et puis c'est souvent de la couverture homme à homme, etc. Il n'y a pas trop de zone, il n'y a pas trop de couverture en profondeur. Mais par contre, contre la course, ça va pas. Et si on parle que de ce match, et c'est notre cas aujourd'hui, il va falloir qu'ils défendent mieux la course, parce que l'un dans l'autre, même avec la blessure de Eckler, les Chargers, Packers arrivent plutôt à bien porter le ballon au sol et à avancer, à faire bouger les chaînes. Et par contre, les Vikings, pour défendre la course adverse, c'est vraiment un problème. Et contre les Chargers, il va falloir qu'ils y remédient, parce que pour l'instant, c'est vraiment une défense gruyère. Dès qu'un coureur a le ballon, ben, ça passe.
Ouais, après, moi, je ne serais pas aussi dur avec ce reste, parce que quand tes deux meilleurs joueurs, c'est Danny Hunter et Harrison Smith, qui sont plus proches de la fin de leur carrière que du début, et que tu n'as à peu près rien autour, il y a un moment, des dauphins, t'en fais pas des requins, quoi. Et je pense qu'il fait un peu ce qu'il peut. Et même au niveau du head coach, ça reste un sophomore, donc il y a peut-être un petit peu plus de temps. Mais c'est sûr que, voilà, ça reste un match qui peut aller dans les deux sens. Instant pronostic, tu pars sur les Vikings, tu pars sur les Chargers.
Ah, moi, je pars sur les Vikings, ouais. Sur les Vikings, à domicile, ouais. Et puis, cette équipe me paraît plus cohérente dans ce qu'elle propose. Alors, ok, c'est pas flamboyant, mais ça me paraît plus cohérent. Moi, je pars sur les Vikings. Je pense qu'ils vont réduire les pertes de balles. Ils ont une attaque qui peut avancer. Une défense qui, je l'espère, va se réajuster. Alors que les Chargers, je trouve que ben, c'est tout ou rien, en fait. Les Chargers, et pour l'instant, c'est rien. Moi, je pars sur les Vikings.
Ben, j'ai la même analyse. Alors, paradoxalement, je suis un peu seul dans ceux qui font les pronos, puisque pour l'instant, alors, tout le monde n'a pas encore rempli, mais je suis seul à jouer Vikings pour l'instant, contre trois Chargers. Mais en tout cas, moi, je pense aussi que les Vikings... En fait, je trouve que c'est plus facile de corriger les pertes de balles que de corriger un coaching global. Et en plus, bon, le jeu au sol va se réveiller à un moment. Mathison, il peut pas être, il va pas se louper toutes les semaines comme ça. Donc, j'irai sur les Vikings. Et là, clairement, si les Chargers arrivent à 0-3, on en connaît un qui va trouver que sa chaise se réchauffe un petit peu. Hein, mais bon, ça sera évidemment un débat pour les semaines à venir. Voilà notre affiche. Et maintenant, on va passer à tous les autres matchs.
It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night! And it's our division! It's our time to go win it! We're gonna start fast and finish strong! Yes, we're gonna work on three! One, two, three, work!
Les autres matchs, Jean-Michel, parce qu'on en a beaucoup, puisqu'on n'est pas encore dans les périodes de bail. Donc, du coup, toutes les équipes jouent durant ces semaines. Je pense que les bails commencent la semaine prochaine, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Je crois avoir vu quelques équipes en semaine 4. Cela étant dit, Jean-Michel, on va commencer par le match du jeudi à 2h15 du matin. Les miraculés New York Giants, qui ont réussi un comeback assez incroyable contre les Cardinals, face au rouleau compresseur San Francisco. Est-ce qu'il existe un seul... Enfin, oui, il existe forcément un monde parce qu'on est en NFL, mais quel est le motif d'espoir pour les Giants qui, je le rappelle, seront privés de Saquon Barkley pour ce match?
Oui, ben voilà, moi j'allais te donner comme motif d'espoir, c'est courir davantage et surtout que Daniel Jones court davantage. Alors en plus, voilà, sans Saquon Barkley, ben moi je trouve que Daniel Jones, il faut qu'il court, parce que quand il court, ça fonctionne plutôt bien. Donc c'est vrai que c'est pas un quarterback dont on a l'habitude de le présenter comme une double menace, etc. Mais quand il porte le ballon, ben ça marche. Donc moi je pense qu'il faut qu'ils y aillent, qu'ils fassent ça davantage. Pour moi, c'est la seule façon qu'ils ont de pouvoir les battre. Surtout qu'en plus, quand tu cours, ben tu fais tourner l'horloge. Ce qui veut dire que pendant ce temps, Brock Purdy et son attaque n'a pas le ballon, ne peut pas marquer de points. Enfin, ils peuvent en marquer en défense, sur un pick 6, mais en tout cas tu les prives un petit peu de ballon et puis ça marche, ça avance. Daniel Jones, il arrive très bien à courir. Moi je trouve que c'est vraiment ce qu'il doit faire pour avoir une petite chance de battre les 49ers.
Oui, alors pour le coup ils ont été très valeureux, Daniel Jones surtout, qui a été vraiment très très bon, il faut le dire, la semaine dernière. Bon, ça me paraît en effet un petit peu compliqué d'imaginer renverser la machine Niners, mais bon, rien n'est impossible dans la NFL. Donc on part sur les Niners.
Ah oui, quand même, oui, surtout que si je peux rajouter juste une dernière chose, quand même, au bout de deux matchs, les Giants, zéro sac. Mais comment ça se fait, zéro sac? Je veux dire, à l'intérieur, t'as Leonard Williams et Dexter Lawrence qui peuvent occuper les linemen offensifs, et à l'extérieur, alors, ok, Aziz Ojulari, il est gêné par les blessures, mais d'autre côté, t'as Kevin Thibodeau qui a montré quand même de bonnes choses l'année dernière, et en deux matchs, aucun sac. Et je parle pas que de Thibodeau, je parle de la défense des Giants. Et il faut mettre un peu Brock Purdy sous pression, là, c'est pas possible.
Ah ben cette défense avait passé à côté, et Thibodeau d'ailleurs on voyait s'isoler en fin de match, peut-être déçu par sa performance, mais clairement il était un peu à côté. On part sur les matchs de 19h et on va commencer par un Tennessee Titans qui vont chez les Cleveland Browns. Alors là, c'est quand même assez intéressant parce que c'est un match qui peut vraiment aller dans les deux sens. D'un côté, on a un Tannehill qui a semblé revivre. De l'autre, on a Cleveland avec plein de questions hein, suite à la blessure de Chubb, suite aux contre-performances de Deshaun Watson. Est-ce qu'on y croit aux Titans pour réaliser un deuxième bon match d'affilée ou est-ce qu'on les voit redescendre sur terre face aux Browns ?
Non, moi j'y crois. Tu vois, j'y croyais contre les Chargers. Apparemment, j'étais le seul dans la rédaction. Mais voilà, j'y croyais. Ben, déjà, par leur défense, ils ont une super défense. Et en plus, là, donc, c'est un match-up face aux Browns. Comme tu l'as dit, vraiment, l'élément déterminant, c'est qu'ils n'ont plus Nick Chubb. C'est quand même... Moi, pour moi, c'est le coureur numéro 1. Mais si ce n'est pas le numéro 1, ils sont au moins dans le top 3. Et pour l'instant, après deux matchs, les Browns, c'est la meilleure attaque au sol en NFL. Sauf que là, il n'y a plus Nick Chubb. Et sauf qu'en plus, les Titans, eux, c'est la troisième défense en yard encaissée au sol. Donc déjà, tu sais que Tennessee va annihiler le jeu au sol des Browns et va les obliger à passer. Et à partir de là, ils vont les attendre. Donc oui, moi je pense que ne serait-ce qu'avec la défense, après on pourra parler de l'attaque, mais la défense des Titans peut permettre de remporter ce match.
Oui, je pense que... Honnêtement, je pense que la défense des Titans va souffrir contre le jeu au sol, parce que même s'il n'y a pas Nick Chubb, il y aura quand même Jerome Ford, il y aura quand même une équipe construite là-dessus. Mais la blessure de Conklin a quand même laissé un grand vide. Et Deshaun Watson, il y a un moment, on attend toujours qu'il revienne à un niveau de l'époque Cleveland Browns. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc,
Texan, ouais.
Moi, je suis comme toi. Houston Texans. Du coup, je pars sur les Titans aussi, j'y crois. C'est assez partagé dans la rédaction, ce qui ne m'étonne pas parce que c'est un match... Assez équilibré. Ensuite, on a les Falcons qui vont à Détroit rencontrer les Lions. Là encore, très intéressant affrontement entre cette équipe des Falcons invaincue et qui a une identité claire, le sol et encore le sol. Et on a d'autre côté, ces Lions, la hype de l'intersaison, entre guillemets, qui est redescendue un petit peu sur terre, même s'ils ont été extrêmement valeureux, avec cette défaite en overtime contre les Seahawks. Est-ce que la magie Atlanta va continuer une troisième semaine de suite, la magie Bijan Robinson ?
Oui.
Qui écrase la défense de Détroit, tu y crois ?
Oui, moi j'y crois, et j'aimerais bien, parce qu'évidemment ce joueur il est tellement formidable, Bijan Robinson, allez-y, remettez un peu de moutarde sur votre plat, la Bijan Mustardson, parce qu'il est tellement électrique, je veux dire, oui c'est un coureur, mais en deux matchs avec les Falcons, c'est le joueur le plus ciblé dans les airs, voilà, c'est incroyable, c'est un rookie, c'est un coureur, et c'est lui le receveur numéro 1 de son équipe, il fait tout, alors quelque part peut-être que c'est un petit peu trop, mais quel joueur, c'est incroyable, et comme tu l'as dit, c'est vraiment une identité affirmée, marquée, parce que en NFL, pour l'instant, il n'y a aucune équipe qui a une balance course-passe plus en faveur de la course que les Falcons. Voilà, 56% de leur play, c'est une course. Ils font que courir tout le temps, et ça marche, donc pourquoi pas. Après, si on part sur le prono maintenant, j'irai peut-être quand même sur Détroit, parce que c'est une attaque, je trouve, plus équilibrée, avec une très bonne défense. Mais les Falcons, c'est vraiment très intéressant de les voir jouer cette équipe.
Eh bien écoute, alors, toutes mes excuses. J'ai oublié de faire les pronos de la semaine dernière, vous allez comprendre pourquoi. Parce que les Falcons m'avaient rapporté un point, parce que seul contre tous, j'avais joué les Packers. Cependant, par honnêteté intellectuelle, parce que j'en connais certains dans la rédaction qui vont dire que j'ai triché sinon, je rappelle les scores de la semaine 2. Je suis désolé de ne le faire que maintenant. 8 points pour moi, pour Grégory et pour Raoul, autant dire assez catastrophique. 9 points pour Alain, 11 pour Raphaël et 12 pour Lucas. Donc sur l'année, aujourd'hui, on a 14 pour Raoul, 16 pour Greg, 17 pour moi, 19 pour Alain, 21 pour Raphaël et 23 pour Lucas, le mal-aimé de la saison dernière qui là est revenu le couteau entre les dents et qui est devant. Et pardon de cet interlude, mais pour moi, en fait, je vais continuer à y croire jusqu'au moment où je me prendrai un mur. Mais je vais continuer à pronostiquer les Falcons parce que j'aime bien les équipes qui ont une identité. Parce que j'ai dit, moi, je veux voir Bijan Robinson, joueur offensif de l'année. Bon, alors ça nécessitera peut-être une blessure de McCaffrey, malheureusement, parce que McCaffrey, il a quand même pris des longueurs d'avance. Mais Bijan Robinson et cette équipe, j'adore. Donc, moi, je vais partir sur les Falcons. Donc après cette victoire attendue et annoncée des Falcons, hein, comme je l'ai dit, on part sur un autre match qui là peut tenir toutes ses promesses, puisque les Packers affrontent les Saints. Donc Saints qui sont un peu lents au démarrage, mais qui pour autant sont à 2-0, ce qui est quand même le principal. Est-ce que tu vois Jordan Love continuer sur sa bonne lancée et peut-être même embêter cette quand même féroce défense de New Orleans?
C'est vrai qu'il est surprenant quand même, Jordan Love. Après, on l'avait jamais vu, donc ben voilà. Et là, on voit que ben oui, il a l'air prêt, ce joueur. Franchement, il est plutôt propre, il fait des bons choix. Après, le problème de Jordan Love, c'est pas Jordan Love, c'est que ben il a beaucoup de blessures autour de lui. Donc déjà, la ligne offensive, Bakhtiari, Elton Jenkins. En plus, là, il est privé. Alors, je sais pas, il sera peut-être disponible pour ce match, mais son coureur, Aaron Jones. Et donc, du coup, ben, sans Aaron Jones, sont-ils capables de courir? On l'a bien vu lors du dernier match, dimanche dernier, ben, ils n'arrivaient plus à courir sans Aaron Jones. Et si tu le prives du jeu de course, en plus d'une ligne offensive qui est amputée de deux titulaires, ben, ça va être compliqué, surtout, comme tu viens de le dire, face à cette défense des Saints qui est impressionnante. Et ce n'est pas une surprise, puisqu'ils ont des joueurs sur les trois rideaux.
Oui, oui, ils ont des joueurs sur les trois rideaux. Ils ont... enfin, globalement, on est sur deux beaux effectifs, mais y en a un qui est plus expérimenté que l'autre, si tu veux. Et du coup, moi, si j'ai le choix, je vais plutôt partir sur le plus expérimenté. Et du coup, je vais partir sur les Saints. Toi aussi, du coup.
Oui, moi aussi. Moi aussi, ouais, exactement.
Bon. Le match d'après, Jacksonville Jaguars contre Houston Texans. Alors là, écoute, je ne sais pas quoi dire. Est-ce que Houston, parce que Houston, bon, voilà, c'est une jeune équipe hein, qui a encore beaucoup de talent à venir, mais bon, qui a besoin de temps pour se développer. On a vu qu'ils ont du mal même face à des équipes du calibre, des Colts, etc. Et ils vont aller affronter des Jaguars qui vont avoir un couteau entre les dents après leur non-match contre Kansas City, à vouloir se venger contre leur entre guillemets, comment dirais-je, leur adversaire de division favori ces dernières années. Est-ce que là encore, on est sur un match qui, théoriquement, bah, ça doit être les Jaguars du début à la fin et on remballe? Ou pour toi, cette jeune équipe de Houston peut surprendre?
Non, je pense que les Jaguars devraient dérouler et remporter ce match. Après, dérouler en NFL, ça se passe jamais comme ça, mais les Jaguars quand même, voilà, que ce soit en termes du coaching, que ce soit en attaque ou en défense, les joueurs ont quand même plus d'expérience. En plus, on l'a vu à l'intersaison, les Jaguars ont fait très très peu de mouvements, je veux dire, hormis la draft, il y a eu très peu de changements. Donc voilà, les joueurs, même si en défense il y a beaucoup de jeunes joueurs, ils ont l'habitude de jouer dans ce système, ils sont beaucoup plus expérimentés. Après, les Texans, c'est très intéressant à voir, surtout qu'ils prennent un quarterback rookie, donc CJ Stroud. Ils le font lancer énormément, énormément. Ils font énormément de jeux à la passe. D'ailleurs, c'est plutôt inquiétant de voir la faible utilisation et le faible rendement de Dameon Pierce, le coureur qu'on avait vu pourtant séduisant l'année dernière. Déjà, je pense qu'il va falloir qu'ils réajustent un petit peu, qu'ils équilibrent un petit peu cette attaque. Et le problème de CJ Stroud, c'est aussi qu'il y a beaucoup de blessures sur sa ligne offensive. D'ailleurs, c'est le quarterback le plus saqué pour l'instant en NFL. Il a été mis au sol 11 fois. Donc, même si les Jaguars, ils sont pas hyper réputés pour le pass rush, quand même Josh Allen, il y a quand même d'autres joueurs intéressants. A priori, je vois pas comment les Texans peuvent s'en sortir dans ce match.
Oui, un peu la même analyse. Je pense qu'ils vont être vaillants. Hein. Je m'en fais pas, hein, coaché par DeMeco Ryans. Ils ont pas abdiqué contre les Colts et ils ont fait leur match. Mais là, la marche me paraît un peu haute pour eux. Ça, c'est sûr. Le prochain match, c'était Chargers contre Vikings. Donc ça, on en a parlé en long, en large et en travers. Ce sont les Vikings qui vont remporter pour nous deux. Match suivant, match assez intéressant parce que théoriquement il va d'un côté, mais les Dolphins qui accueillent les Broncos. Les Broncos, c'est quand même encore une fois la déception de cette saison, 0-2, l'effet Sean Payton se fait attendre et manque de bol pour eux. En troisième semaine, ils affrontent l'attaque certainement la plus explosive qu'on puisse avoir en NFL aujourd'hui. Jean-Michel, là encore, pour Denver, cette défense, elle est bonne. Et on sait, elle est bien coachée. Mais est-ce qu'on n'est pas devant l'attaque la plus létale de NFL avec les Dolphins, dans le sens où cette équipe, dans le jeu vertical, et ils ont le quarterback pour et les receveurs pour, on se demande vraiment comment les arrêter?
Oui, c'est ça, exactement. Tu vois, quand tu veux construire une équipe dominante, tu peux essayer d'être complet dans plusieurs domaines, etc. Ou tu peux te dire, allez, on va prendre un domaine en particulier et on va le blender pour qu'il soit vraiment, vraiment dominant, dominant. Et c'est ce que font les Dolphins, c'est beau à voir. Eux, c'est l'attaque aérienne et puis on y va. Donc, comme tu le dis, ils ont le quarterback pour, tu vois, il n'arrête pas de lancer de tous les côtés. C'est un bombardier, il a 1 million de yards à la passe en 2 matchs. Et puis, ils y ont mis 2 receveurs, 2 flèches, Waddle, Hill, et puis on y va, on agresse l'adversaire constamment. Les Broncos, écoute, Sean Payton, on se rappelle, quand il est arrivé à Denver, il avait dit, oh là là, j'ai jamais vu une équipe aussi mal coachée que Denver l'année dernière. Eh ben, moralité, 2 matchs, 2 défaites, alors que Denver menait à chaque fois au 4e carton, et à chaque fois, ils se font reprendre. Bon, ben, j'espère que Sean Payton, il va se remettre un petit peu en cause au niveau de son coaching, parce que là, ben, ça va pas du tout. Quand tu mènes au score au 4e carton et que par 2 fois tu perds, ben, c'est qu'il y a peut-être un problème de coaching.
Ah ben, quand tu mènes 21-3 contre tes Commanders et que tu arrives à perdre, en effet, tu peux te poser des questions, oui. Ça, c'est une évidence. Prochain match, les Patriots qui vont rendre visite aux New York Jets. Donc, je le rappelle, c'est le match qui sera sur Sixplay, commenté par Lucas et par Greg. Défense et encore défense, Jean-Michel. On est sur l'inverse de Chargers-Vikings. On est sur le match qui va finir à 6-3.
Oui, c'est possible. Ou alors, on est sur le match qui va finir à 35-32, parce qu'en fait, c'est 2 attaques qui font que passer par les airs. Moi, c'est ça qui me surprend. Donc, si ça marche, ça peut aussi faire un gros score, dans le sens, ils courent pas. D'ailleurs, je comprends pas, les Jets, ils perdent Aaron Rodgers, et ils courent pas. C'est la 28e équipe sur 32 en tentative au sol. Et je sais pas, moi, ils ont fait venir Dalvin Cook, il y a Breece Hall qui est très bon, il y a même de la profondeur avec Michael Carter, le rookie Abanikanda, mais ils courent pas. Pourquoi ils courent pas? Moi, je comprends pas. Surtout que la défense contre la course des Patriots, pour l'instant, c'est pas leur fort. Ils défendent mieux les airs que la course. Donc voilà, et de l'autre côté c'est pareil, Mac Jones lui aussi, après tu vois, voilà, même peut-être devant lui, c'est le quarterback qui lance le plus de passes en NFL, mais c'est incroyable, faut courir un petit peu les gars, je comprends pas là, je veux bien, c'est la NFL moderne comme on dit, la passapi league, mais bon, il faut courir un petit peu. Donc, à voir s'ils se réajustent. Alors, donc, oui, ça peut faire un tout petit score parce que les 2 défenses sont très bonnes. Mais si ça s'enflamme, si ça réussit, comme ça passe que par les airs, ça peut aussi faire un match très spectaculaire.
Ouais, je te trouve un peu dur avec les Jets parce que ils ont couru après le score pendant 35 minutes contre les Cowboys. Donc, forcément, ils ont beaucoup passé, notamment parce que, en plus, le jeu de course marchait pas. Mais je pense qu'ils vont quand même revenir aux fondamentaux dans ce genre de match avec Breece Hall, avec les autres coureurs. Et à mon avis, il y a des chances qu'ils courent plus qu'ils ne passent. C'est un match très difficile à pronostiquer. Moi, personnellement, je suis allé sur les Jets. Justement parce que je trouve que la défense est un tout petit peu meilleure, parce que je trouve que le jeu de course est un tout petit peu meilleur et qu'ils peuvent provoquer des pertes de balles. Donc je suis allé sur les Jets, mais c'est vrai que la rédaction penche plutôt vers les Patriots. Toi, t'es Jets ou Patriots?
Moi, je serais Jets, et surtout pour une raison, c'est que cette défense des Jets, pour mettre la pression, ils sont juste incroyables. Et quand tu regardes la protection de Mac Jones depuis le début de la saison, ben ça va pas. En fait, Mac Jones, c'est le quarterback à NFL qui a été mis le plus sous pression depuis ces 2 matchs 2023. Donc, quand tu as en face la défense des Jets qui va rusher de tous les côtés, ben j'ai peur qu'ils s'en sortent pas, Mac Jones. Donc, j'irai sur les Jets aussi.
Je suis d'accord, Mac Jones, il a été un peu sauvé par contre les Eagles par le fait que le manque de linebacker chez Eagles fait que les tight ends ont pu servir de soupape sécurité. Là, face aux Jets, ça ne se passera pas comme ça. Et j'imagine, moi aussi, un match un peu cauchemar, pour le coup. Même si on rappelle qu'en général, Belichick contre les Jets, il réussit pas mal. Mais là, on va dire que c'est la fin de la malédiction. Encore une équipe d'AFC Est, puisque nous avons les Bills qui se déplacent chez les Commanders de Washington. J'ai failli faire une bêtise. Les Bills se sont remis à tête à endroit en semaine 2, même s'ils affrontent une équipe qui, sur le papier, est à 2 victoires, 0 défaites. Normalement, c'est le match où ils confirment qu'ils sont de retour et ils roulent à peu près sur Washington, où je suis peut-être un peu trop binaire et tu penses que le match va être plus compliqué que ça?
Non, moi je pense que oui, les Bills quand même, ils sont vraiment supérieurs, que ce soit en attaque, que ce soit en défense, même au niveau de coaching. Alors, a priori, de ce qu'on voit, Eric Bieniemy, il apporte pas mal à l'attaque. Et puis, Samuel, c'est bien ce qu'il fait. Deux matchs et deux game winning drive. C'est-à-dire que sur la dernière possession qu'il a, il permet à son équipe de passer devant et au final de remporter le match. Donc, bravo Samuel, on le condamne pas du tout. Et puis, il a des armes avec McLaurin, avec Dodson. On voit même le Titan Thomas qui est en bonne santé pour une fois. Donc, ils ont des armes. Et puis surtout, Brian Robinson, le coureur que j'aime beaucoup et qui va continuer à monter en puissance. Donc ils ont des armes, les Commanders, mais en face quand même les Bills, non, moi je trouve que c'est trop fort. Je trouve que Josh Allen s'est bien repris sur le deuxième match, on voit que c'est un quarterback qui fait peu d'erreurs, et puis il a quand même ce qu'il faut autour en défense, et puis même pour faire une attaque très complète, je vois pas comment Washington peut s'en sortir.
Ouais, moi je pense que ça va être une boucherie. Ça fait partie des matchs, alors évidemment comme je dis ça, c'est des matchs qui vont se dérouler différemment, mais c'est vrai que bon, j'ai du mal à voir Washington résister en 60 minutes là-dessus. Il nous reste un match à 19h, c'est les Ravens contre les Colts. Là encore, on a une équipe en pleine confiance, les Baltimore Ravens, qui affrontent les Colts. Alors, les Colts de Anthony Richardson, oui ou non, on ne saura pas avant sûrement vendredi, parce que comme il est en protocole commotion, les protocoles commotion renforcés depuis quelques années, ils durent entre 5 et 10 jours. Donc, tu peux louper un match comme tu peux être de retour. Donc, ça sera lui ou Gardner Minshew. J'ai envie de dire, même si Richardson fait un début de saison très encourageant, l'un ou l'autre, la balance penche quand même en faveur de Baltimore.
Ah oui, bien sûr, évidemment. Après, ça serait vraiment quand même très pénalisant, parce qu'Anthony Richardson, moi je vous le dis, il va battre le record de touchdown au sol inscrit par un quarterback, c'est phénoménal, et ça nous surprend pas, on avait vu ce qu'il faisait avec Florida, je veux dire, il est sensationnel quand il court, voilà, c'est incroyable ce qu'il peut faire, que clairement il compense presque le fait, l'absence de Jonathan Taylor, mais en face, voilà, t'as la défense des Ravens, c'est tout simplement la plus performante contre le jeu au sol, de toute façon, voilà, je veux dire, ils concèdent jamais de première tentative au sol, ils sont toujours très solides, très agressifs, et puis en plus ils ont une attaque qui commence à être plus équilibrée. Je veux dire, on commence à voir Zay Flowers, Odell Beckham, on commence à voir du jeu de passe, même Rashad Bateman semble renaître cette année. Donc du coup, voilà, c'est une attaque très solide qui commence à être variée, en plus une grosse défense et puis un coaching expérimenté. Ouais, je vois pas non plus comment les Colts peuvent s'en sortir à Baltimore.
Mais on rappelle que le plus grand nombre de touchdowns à la course pour un quarterback, c'était Newton dans sa saison rookie, qui en fait 14 de mémoire, puisque Hurts en fait 13 la saison dernière et il ne bat pas le record. On a fini pour les matchs de 19h, donc là on va enchaîner sur un triptyque de matchs à 22h. Et on commence par les Panthers qui se déplacent à Seattle. Les Panthers de Bryce Young qui sont en difficulté. On est d'accord sur ce début de saison, il y a du mal à trouver le rythme, une ligne offensive qui ne répond pas, des playmakers un peu absents. Ça fait beaucoup quand même pour affronter des Seahawks qui sont remis à tête à endroit.
Oui, c'est ça exactement. Après, est-ce que c'est vraiment une surprise? Bryce Young, il est très très fort, on le sait très bien, mais c'est un quarterback rookie, donc on l'a vu même encore contre les Saints, il fait de très bonnes choses, et puis le jeu d'après, il fait vraiment une boulette et ça passe pas. Donc il faut qu'il s'ajuste. En plus, sur la ligne offensive, il lui manque deux joueurs à l'intérieur, c'est quand même très important. Et puis au niveau des armes, ben, ils ont pas pu vraiment construire une belle escouade pour Bryce Young. Ils ont perdu DJ Moore pour récupérer Bryce Young justement. Et c'est, ouais, ça paraît compliqué, surtout comme tu l'as dit, Seattle, ben voilà, ils ont fait un très bon match contre Détroit, on sait que c'est une très bonne équipe. Alors, je suis quand même surpris qu'ils courent pas davantage, Seattle. Je trouve qu'ils passent beaucoup par les airs. Alors, ok, tu as deux très bons receveurs, Geno Smith qui marche plutôt bien, mais je suis surpris qu'ils courent pas davantage. Et puis, par contre, Seattle, il va falloir qu'ils réduisent un petit peu les pénalités, parce que là, c'est pas possible. En deux matchs, ils ont perdu 135 yards pour des pénalités. Alors, contre les Panthers, ok, ça peut passer, mais pour le reste de la saison, il va falloir qu'ils se réajustent, qu'ils soient plus disciplinés.
Oui, je suis d'accord. Mais là-dessus, le fait que tu aies Pete Carroll en entraîneur, bon, ça fait que honnêtement, je suis moins inquiet. Je pense quand même que là encore, hein, on parle de différence de talent. Jesse Horn est blessé, hein, donc qui va défendre les receveurs des Seahawks? J'ai peur qu'au niveau aérien, quand même, Seattle fasse la loi. Donc moi, je vais sur les Seahawks. J'ai compris que toi aussi.
Oui.
Encore un match un peu peut-être couru d'avance. Évidemment, dans tous les matchs courus d'avance, il y en aura au moins un qui va où il va y avoir une surprise, hein, parce qu'on est sur la ligue la plus homogène au monde. Les Bears qui vont à Kansas City rendre visite à Patrick Mahomes. Alors, Justin Fields, moi j'en ai parlé dans l'épisode débrief, vous irez voir si vous voulez. Est-ce que toi, pour ta part, tu crois encore en Justin Fields?
Oui, j'y crois encore, voilà, c'est le début de la saison. Mais c'est vrai que je m'attendais à un meilleur début de saison. Parce que tout de même, voilà, on avait vu beaucoup d'articles disant qu'il avait travaillé notamment sur le fait de lancer plus vite le ballon, le fait de jouer plus proprement, de pas chercher toujours le big play. Et puis, ben non, ça continue en fait, il garde trop le ballon, du coup ça marche pas, du coup il se fait saquer, souvent il fait des mauvais choix. Alors après, il a du talent, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que pour l'instant ça fonctionne pas. Et puis là, ben voilà, il va jouer contre les Chiefs, il va avoir un modèle en face avec Patrick Mahomes. Ce qui est effrayant, surtout pour Chicago, c'est de voir cette attaque de Kansas City avec Mahomes, avec Kelsey, on ne les présente plus, et une défense comme celle de Chicago. Mais c'est incroyable, cette défense, c'est juste du gruyère en fait. C'est eux, Green Bay, les Packers, les têtes de fromage, parce qu'ils ne provoquent aucune perte de ballon. Toutes les premières tentatives, ça passe. Sur troisième tentative, ça passe. Ils se font ouvrir de tous les côtés en défense. Et donc, du coup, ben, Justin Fields, il récupère le ballon de temps en temps avec des mauvaises positions de départ, et en plus il s'en sort pas, donc pour l'instant c'est vraiment très 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 compliqué Chicago.
Ouais, moi je l'ai dit hein, dans des briefs, pour moi c'est la pire équipe de la ligue, voilà, plus que les Cardinals. Donc voilà, Kansas City, parce que Mahomes, parce que Kelsey, parce que tout ça, j'espère que ça sera plus compétitif que ce que j'imagine, mais aujourd'hui j'ai du mal à m'enflammer pour Chicago. Dallas qui va aux Cardinals. Alors là encore un match entre une équipe au sommet et une équipe peut-être sur le papier plus faible. On a parlé en long, en large de Dallas. Arizona, c'est quand même moins mauvais qu'attendu, si je peux m'exprimer ainsi, mais peut-être pas au point d'embêter les Cowboys.
Non, voilà, oui, c'est ça. Je vois pas comment une telle équipe peut s'en sortir. Alors oui, il y a des choses qui vont bien. Il y a par exemple le pass rusher Dennis Gardeck. C'est un joueur très sympathique parce que voilà, c'est vraiment le prototype du joueur travailleur qui sort un petit peu de nulle part, qui a priori n'a pas les qualités adéquates et qui pourtant sur le terrain, avec son envie, avec son activité, ben il a quand même signé 352 matchs. Voilà, c'est un bon joueur. Ça, moi, ça me plaît beaucoup. Je suis content de voir que le rookie Paris Johnson, il tient très bien sa place en tant que tackle offensif. On sait que pour un rookie, c'est très difficile, mais bon, l'un dans l'autre, de toute façon, t'as pas ton quarterback titulaire, t'as un effectif avec plein de trous, et tu affrontes Dallas, donc ouais, non, je vois pas comment ils peuvent s'en sortir.
Ouais, je pense que voilà, c'est une valeureuse équipe, hein. C'est une valeureuse équipe, mais Dallas, c'est trop fort, on en a parlé pendant 10 minutes au début d'émission, donc on va pas revenir dessus, mais globalement, c'est la meilleure équipe. Donc les Cowboys pour nous deux, évidemment. Pittsburgh, les Steelers, qui vont à Las Vegas. Donc, dans ton équipe, évidemment. Écoute, Las Vegas, c'est plutôt surprenant depuis le début de la saison, dans le bon sens du terme, même si ça a été peut-être un peu plus difficile au sol sur le dernier match. Pittsburgh, de l'autre côté, c'est quand même en panne offensivement, quoi. C'est, aujourd'hui, l'attaque des Steelers ne fait pas peur. Et il va falloir un réveil rapide parce que là, avec les blessures de Kamei Ward, de Diontae Johnson, etc., cette équipe, elle est un peu au bord du précipice. Est-ce que ce n'est pas le meilleur moment pour Las Vegas pour les prendre et réaliser, entre guillemets, une semi-surprise?
Ah oui, moi je pense, parce que voilà, comme tu le dis, déjà, je comprends pas que les Steelers, ils courent pas plus que ça. Alors, ils essayent, on voit bien que Najee Harris, ça marche pas du tout, que Jalen Warren, ça marche un petit peu mieux, mais il faut qu'ils insistent un petit peu plus. Après, est-ce qu'ils ont la ligne offensive pour le faire? Voilà, ça c'est une autre question. De toute façon, on sait très bien, Pittsburgh, cette année, c'est plutôt une équipe en reconstruction. Ils ont beaucoup, beaucoup de jeunes joueurs et de jeunes joueurs de talent. On pense notamment à George Pickens, par exemple. Je pense que l'avenir est plutôt brillant pour Pittsburgh, mais pour l'instant, voilà, ça patine encore un petit peu, et puis, la clé de ce match, eh bien, écoute, c'est peut-être cette défense des Steelers qui est très très bonne pour mettre la pression. Et en face, tu as une ligne offensive des Raiders qui a concédé aucun sac en deux matchs. Voilà, c'est une ligne offensive qui est très bien en protection de Jimmy Garoppolo. Et moi, je pense que voilà, de l'autre côté, ça va pas être flamboyant. Mais Garoppolo, il va trouver Davante Adams, il va retrouver Mayer s'il est revenu du protocole commotion. Il va faire ses petits lancers, ça va avancer. Et moi, je pense que les Raiders vont s'imposer. Je dis ça pas parce que je suis fan et que je l'espère, mais parce que je pense que c'est pour l'instant un petit peu plus au point que les Steelers.
Écoute, moi je suis parti sur les Steelers parce que quand même, sur le papier, je me dis qu'il y a un moment, ils vont se réveiller, c'est pas possible. Et que mine de rien, moi ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on a vu la ligne offensive de Las Vegas en difficulté quand même en semaine 2. Et là, ils vont affronter Watt et Highsmith. Ça va quand même être un sacré défi. Donc on va dire que yard après yard, sur le duel de ligne, je vais donner avantage à Pittsburgh, mais honnêtement, c'est extrêmement équilibré. Tu peux partir dans les deux sens, ça ne me choquerait pas. C'est un match qui vraiment est 50-50, comme on dit. On passe sur... Alors, j'allais dire, on passe sur les... Oui, sur les matchs du lundi, puisque, je ne l'ai pas dit, Steelers-Raiders, c'est à 2h20 du matin, dans la nuit de dimanche à lundi. C'est donc le Sunday Night Football. Et on a donc deux Monday Night Football, comme on a en début de saison depuis maintenant 2 ou 3 ans. Les Eagles qui vont visiter les Buccaneers à 1h15 du matin. Donc là, cette fois, on est dans la nuit du lundi au mardi. Les Eagles à 2-0, les Buccaneers à 2-0. Bon, sur le papier, on a deux équipes qui ont fait le plein, mais en réalité, on a une équipe qui surprend les Buccaneers, une équipe des Eagles qui a eu un peu de temps à se mettre en route. Est-ce qu'on, avec 10 jours de préparation, parce qu'on rappelle, les Eagles ont joué le jeudi, est-ce qu'on considère que malgré tout, ça devrait faire la différence, notamment au niveau des lignes? On sait que la ligne offensive des Buccaneers, c'est quand même très affaiblie.
Oui, mais pour l'instant, elle tient bien. Moi, je trouve que pour l'instant, la ligne offensive des Buccaneers, elle protège très bien Baker Mayfield. Donc, pour l'instant, moi, je trouve que c'est rassurant. Alors, évidemment, là, du coup, ils vont affronter les Eagles. Donc, voilà, ça fait peur parce que, ben voilà, on voit bien que les jeunes, Jalen Carter, Jordan Davis, commencent à être très performants. Et puis, il y a toujours les expérimentés, les Cox, les Graham, les Josh Sweat, qui est vraiment très bon. Il faudrait commencer à en parler un petit peu plus de ce joueur quand même. C'est fou qu'il soit sous-coté à ce point avec les productions qu'il fait. Donc là, ça va être le vrai gros test de Tampa Bay parce que, ben voilà, en face, ils ont cette ligne défensive. Mais pour l'instant, moi, la ligne offensive des Buccaneers, elle me plaît beaucoup parce que ben, c'est plutôt solide. Et puis Baker Mayfield, alors oui, c'est pas un quarterback très flamboyant, mais tout de même, je le trouve plutôt propre. Et puis il s'appuie sur un Mike Evans qui est quand même incroyable. Tout ce qu'il gagne, tous les yards qu'il gagne après réception, c'est le numéro 1 en NFL et ça peut quand même faire des dégâts. Alors l'un dans l'autre, je suis pas en train de dire non, je pense que Philadelphie va s'imposer, mais il y aura match quand même. Il y aura match, surtout que tu vas nous en dire un mot, évidemment, Victor, mais les deux premiers matchs des Eagles, je les ai pas trouvé si rassurant que ça.
Oui, après là-dessus, moi je suis pas très inquiet. Ils ont joué 2 matchs en 4 jours. Les titulaires ne jouent plus après saison, ce qui moi me paraît un peu une hérésie. Donc on voit en septembre ce genre de match un peu difficile. Après, il y a une chose qui est vraie, c'est que les Buccaneers, ils ont des vrais atouts pour embêter Philadelphie. On sait que Philadelphie se base beaucoup sur le jeu au sol. Quand tu as un Vita Vea en face, ça perturbe beaucoup ton jeu au sol, par exemple. On a vu Jalen Hurts ne pas être à 100% dans ses lectures depuis le début de la saison. Il y a plutôt de defensive backs qui peuvent te punir si tu as des errements offensifs. Donc, il y a des armes, il y a des vétérans, il y a du talent dans cette équipe des Buccaneers. Je pense quand même que les Eagles sont au-dessus et j'ai misé les Eagles. Mais je suis d'accord avec toi que ça ne va pas être un match ultra facile comme certains peuvent le croire.
Non, et tu vois, juste vite fait, tu parles d'un test pour la ligne offensive des Buccaneers, mais je pense que c'est aussi un test pour la ligne offensive des Eagles, parce qu'en fait, il y a quand même du pass rush, parce que comme tu l'as dit, il y a Vita Vea qui va occuper au moins 2 bloqueurs à l'intérieur, mais à l'extérieur, Shaquille Barrett est là, il est revenu en bonne santé, on voit que le jeune Joe Tryon, il commence à montrer de très bonnes choses, et pour l'instant, moi, la ligne offensive des Eagles, je l'ai pas trouvé au niveau qu'on l'attendait, parce que voilà, on l'attend comme le top 3, minimum top 3 ligne offensive, et pour l'instant, ben voilà, ça sera un bon test, je pense, à Tampa Bay.
Oui, c'est sûr. Donc les Eagles pour nous deux, les Eagles pour la rédaction d'ailleurs. Et le dernier match, les Rams qui se déplacent à Cincinnati face aux Bengals. Alors Burrow serait à 100%, on pourrait dire que les Bengals sont favoris. Le problème c'est que Burrow, il est non seulement affaibli, mais même incertain pour ce match. Que les Bengals ont une confiance minimum puisqu'ils sont à 0-2 quand même, avec des erreurs quand même inhabituelles. Et une attaque qui ne tourne pas. Et de l'autre côté, bah écoute, bon an, mal an, on a vu des Rams bien coachés, qui font leur boulot, Stafford qui produit, une défense bien organisée. Est-ce que c'est pas le moment où les Rams, tu sais, enterrent définitivement les Bengals avec un 0-3 qui ferait quand même l'effet d'une bombe en NFL? Voir les Bengals, un des favoris au titre, à 0-3, ce serait pas rédhibitoire pour autant, mais ça serait quand même absolument incroyable.
Ah oui, non, mais c'est fou cette équipe quand même. En fait, Sean McVay, c'est Sean MacGyver. Je veux dire, voilà, tu lui donnes deux bâtons et une fourchette, il fait une fusée. C'est incroyable parce que dans cet effectif, il n'y a quand même personne. Il y a des trous de partout. Il n'y a que des joueurs rookies ou en deuxième année et ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, ils ont une chance. On l'avait bien vu au premier match contre Seattle. S'ils reproduisent la même recette, c'est-à-dire beaucoup courir et puis ensuite trouver des petites passes sur le rookie Pukanok, ben ça peut vraiment embêter ces Bengals. Mais on parle beaucoup de Joe Burrow. Moi, je veux bien, c'est vrai que pour l'instant, il est très décevant. Mais c'est quoi cette défense? C'est quoi cette défense? Et notamment contre la course. Ils se font ouvrir au sol de tous les côtés. Et en face, t'as un jeune Kyren Williams, voilà, qui nous plaisait beaucoup à Notre-Dame, qui commence à vraiment trouver son rythme de croisière en NFL. Il va leur faire du mal. Il faut que la défense des Bengals se ressaisisse. Joe Burrow, évidemment, également, que l'attaque ne tourne pas. Mais cette défense des Bengals, moi, elle m'inquiète.
Du coup, Rams, Bengals?
Ouais, bien sûr, je viens de faire un exposé sur les Rams et puis au final je vais dire les Bengals parce qu'il y a tellement plus de talent. Mais bon, ouais, y a match.
Moi je vais dire les Rams. Voilà, on a fait le tour des affiches de cette troisième semaine. On va finir avec notre segment habituel, c'est celui des paris Unibet. Alors Jean-Michel, il y a des jolies cotes cette semaine, on va y venir. Je vais t'en donner quelques-unes comme ça et tu vas me dire laquelle te plaît le plus.
Ok.
D'accord ? Parce que comme d'habitude, comment dirais-je ? Je suis un peu en consultant. Là, je vais te laisser la primeur de choisir. Donc, j'ai les Titans à 2,18, si on y croit, contre les Browns. Les Falcons à 2,27 contre les Lions. On a aussi, que je ne reprenne mes notes, les Jets à 2,07. Parce qu'on en a parlé, on y croyait tous les deux aux Jets, possiblement. Les Raiders sont favoris hein, pour ta gouverne. C'est les Steelers qui sont à 2,03, du coup. Et on a les Rams à 1,93. Là-dedans, si tu devais m'en choisir trois.
Oh, ben déjà, je pense les Jets. Voilà, je ne condamne pas du tout les Patriots, ils ont leur chance, mais je pense que les Jets vont s'imposer. Donc, du coup, avec cette cote-là, déjà, je mettrai les Jets en première intention. Ensuite, les Rams, moi, ça me paraît quand même très risqué. Mais pourquoi pas? C'est ça aussi, faire un pari, c'est prendre un petit risque pour avoir une bonne cote. Donc, pourquoi pas? Et puis, donc, on a dit les Titans. Moi, j'y crois, donc je mettrai les Titans gagner à Cleveland.
Donc, on reprend. Tu nous as dit les Jets.
Ouais.
Tu nous as dit les Titans.
Uh-huh.
Et tu nous as dit ton troisième, pardon, ça m'a échappé.
Bah, j'allais te rejoindre avec les Rams. Allez, on peut tenter les Rams, pourquoi pas.
Allez, on va tenter les Rams parce qu'on est des gens un peu fous. Et donc, pour une mise de 5€, on a une cote de 8,71 et un gain potentiel de 43€.
Bah, c'est pas mal.
On va faire la cote un peu folle, évidemment, avec les surprises, quand même.
Ah, ben voilà, je voulais t'y amener. Parfait.
Alors, bon, on met les Falcons parce que moi, j'y crois et que ça fait un peu monter. Il nous en faut deux autres. Alors, toi, c'est quoi la grosse surprise, celle que tu as envie de jouer, là?
Ben, moi, ça serait une victoire de Tampa Bay face à Philadelphie. C'est quoi la cote?
2,62. C'est pas si énorme que ça, mais
non.
Ça se joue. Allez, allons-y.
Ben oui.
2,62. Et la dernière, les Bears, les Cardinals,
oh,
non, peut-être pas quand même.
Ah, quand même, non, peut-être pas. Allez, on va prendre quand même un risque, j'y crois pas, mais sait-on jamais. Washington qui l'emporte face aux Bills.
Eh bien, c'était ce que j'étais en train de regarder, puisqu'ils sont à 3.
Wow.
Donc, on va prendre ça. Donc, pour 5€, ça fait une cote totale de 155, plus le bonus, vous avez un gain potentiel de 834,86€. Donc, évidemment... Évidemment, c'est ne jouer que de l'argent que vous pouvez perdre. Si vous sentez que vous perdez le contrôle, n'hésitez pas à appeler les lignes de soutien qui sont là pour ça. On joue pour le plaisir, évidemment, parce qu'on vous donne cette cote sur 6 matchs. Voilà, c'est extrêmement risqué, c'est vraiment plus pour le plaisir. Mais en tout cas, 800€, ça fait un joli appartement, pour un loyer d'un mois dans un appartement... dans une ville moyenne, on va dire, ça fait un joli appartement. Dans une grande ville, ça commence à devenir un appartement un peu restreint. mais ça dépend où vous habitez. Si on habite à Marseille ou à Lyon, pour prendre des villes au hasard, ça reste un peu difficile. Donc voilà, donc on a fait le tour. Merci Jean-Michel.
Merci Victor. Et puis voilà, bon week-end à tout le monde. Là, la Week 3, c'est génial.
Et oui, merci à tous. Et on se retrouve dès demain avec Jean-Michel pour vous parler de la draft et d'un certain Brock Bowers. Salut à tous.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.